Aujourd'hui, on va faire un cours hors série. Vous avez remarqué que vous n'avez pas un Tania devant vous. Vous avez un autre livre, c'est un feuillet sur la paracha. Puisqu'en fait, aujourd'hui, nous allons faire un hors série sur la paracha de la semaine. Et c'est un hors série qui va être lié aussi à la personnalité du Rabbi. Puisque ce soir, c'est la 23e Hiloula du Rabbi, ça fait 23 ans, c'était en 1994, c'était le 3 Tammuz. Et donc là, c'est vrai que la nuit n'est pas encore tombée, mais on est dans la 23e Hiloula du Rabbi. Et donc, ça va être l'occasion pour nous pour analyser la personnalité du Rabbi et sa façon de voir les choses, d'analyser deux grands dirigeants d'Israël, Moshe et Aaron, Moïse et Aaron, comme vous le voyez dans le titre. Et on va essayer d'analyser dans le cours d'aujourd'hui la différence d'approche qu'avaient ces deux grands maîtres. C'est-à-dire que Moshe et Aaron avaient deux façons complètement différentes de gérer la même situation. Donc on va essayer de s'arrêter sur ces détails, de comprendre comment chacun gérait les situations, comment chacun gérait les situations à sa façon, et surtout, quel est l'enseignement que nous on a tiré aujourd'hui, comment on a retrouvé toutes ces facettes chez le Rabbi, qui essayait de prendre les qualités de l'un, les qualités de l'autre, d'accord? Et évidemment, le but de tout ça, c'est pas seulement de dire, bon, on a eu un grand Rabbi et on a un grand Rabbi, mais c'est surtout de se poser la question, quel enseignement on prend pour nous dans la vie de tous les jours? Vous comprenez? Ça veut dire, on n'est pas là simplement pour dire, bon, ben, c'est la loi d'un grand sadique qui est pris pour nous. Bon, c'est très bien qu'il est pris pour nous. Bien sûr qu'il est pris pour nous. Mais, pour qu'il est pris pour nous, il faut qu'on montre qu'on suit son chemin. Il faut qu'on montre que nous, on fait un effort. Encore faut-il savoir dans quelle direction de diriger nos efforts. Donc, vous allez voir les choses qu'on va voir aujourd'hui. Ça va être des choses de la vie de tous les jours. Et on va voir comment Moshe et Aaron sont deux approches complètement différentes de gérer la situation. Vérité et bonté. Voilà. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, Zach, on va d'abord expliquer un peu le contexte qui se passe dans notre paracha. Dans notre paracha, on nous raconte comment, après que les Bnei Israël étaient dans le désert pendant plus de 40 ans, près de 40 ans, arrive l'heure de l'entrée en Israël. Vous vous rappelez l'histoire des explorateurs. Dieu a dit que comme vous avez fauté, vous allez tourner dans le désert, d'accord, 40 ans. Arrive pratiquement à la fin des 40 ans, donc la punition touche à son terme. Tous ceux qui avaient fauté dans la faute des explorateurs sont pratiquement morts, et maintenant c'est leurs enfants qui sont là. Donc arrive le moment dans lequel on doit rentrer en Israël. Et là, Dieu rappelle à Moshe et à Aaron, donc à Moïse et à Aaron, que eux ne rentreront pas en Israël. Bien que tous les membres de leur génération sont déjà morts, et que maintenant c'est les enfants, et que eux ils sont encore en vie, Dieu y rappelle clairement à Moshe et à Aaron que eux ne vont pas rentrer en Israël. Pourquoi ils vont pas rentrer en Israël? La raison officielle qu'il leur donne, c'est parce qu'ils ont enfreint la parole de Dieu lorsque Dieu avait dit de parler au rocher. Au lieu de parler au rocher, eux, ils ont frappé au rocher. Donc, c'était un manque de respect envers la parole de Dieu, etc. Bon, je ne rentre pas dans les détails. En tout cas, Dieu annonce que Moshe et Aaron ne rentreront pas en Israël. On fera un autre cours, si vous voulez, pour répondre à la question... Attendez, voilà, je la voyais arriver. Pour répondre à la question hypothétique de M. Benita, à savoir, est-ce que la faute méritait une telle punition? Mais je n'ai pas commencé encore. Donc ça, c'est un autre cours. Pas de problème. Ben, le jour où je serai Moshe ou Aaron, je pourrais vous dire si c'est proportionné ou pas. Non, ni moi je le suis, et vous, je ne sais pas si vous l'êtes. En tout cas, moi, je ne le suis pas. Voilà. Donc, je disais que... Non, mais ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. Excusez-moi, ce n'est pas le thème. Donc, Akadosh Baruch Hu annonce que Moshe et Aaron, les deux, ne vont pas rentrer en Israël, et que Aaron va mourir en premier. D'ailleurs, au passage, avant Aaron, il y a Myriam qui va mourir. En fait, les trois vont mourir. Dans la paracha de cette semaine, il y a déjà deux qui partent, et Moshe va suivre quelques semaines plus tard. Et donc Dieu annonce que le premier qui va partir, ce sera Aaron. Et Dieu annonce même comment il va partir. Il va partir avec une mort qu'on appelle la mort du baiser. C'est quoi la mort du baiser? C'est ce que Rashi explique dans la paracha de cette semaine. Ça veut dire que, voilà comment ça s'est passé. Moïse a dit à Aaron son frère, sous ordre de Dieu. Il lui a dit, rentre dans la grotte. Il est entré dans la grotte. Il rentre dans la grotte et il voit un lit étendu et une bougie allumée. D'où elle sort cette grotte, on ne sait pas, mais il rentre dans une grotte que personne ne savait qu'elle existait, et on voit un lit étendu, une bougie allumée. Moshe dit à Aaron, de la part de Dieu, il lui dit, monte sur le lit. Il monte sur le lit, d'accord? Ensuite, il lui dit, étends tes mains. Il étend ses mains. Ferme ta bouche. Il ferme sa bouche. Ferme tes yeux. Il ferme ses yeux, d'accord? Et voilà, il est parti comme ça. Et c'est écrit que quand Moshe a vu ça... Il a dit, j'aimerais moi aussi le jour que je devrais partir, j'aimerais partir sans souffrance, ça veut dire. Ça veut dire que une minute avant, il était parfaitement conscient, tout était rien. Seulement, à l'heure où il est arrivé qu'il devait partir,
il a fermé les yeux.
Il a fermé les yeux et il est parti. Ah, Moshe, ça s'appelle la mort du baiser. Ça. Dieu, il l'a embrassé. Et on dit d'ailleurs aussi que Myriam aussi est morte par la mort du baiser. Mais la Torah n'emploie pas le terme, le mot baiser par rapport à Myriam, parce que comme c'est une femme, les gens vont mal l'interpréter. Alors ce qui se passe, c'est que Moshe lui aussi, il, quand il a vu cette mort, il a dit, moi aussi, hein, j'aimerais un jour, le jour où je devrais partir, parce que bon, il y a bien un jour où je devrais partir, j'aimerais moi aussi partir comme ça, sans souffrance. Vous savez, la chance que c'est de partir sans souffrance. Souffrance, c'est très difficile, les souffrances de la mort. Ce qui se passe, dans la suite de la paracha, c'est que les Bnei Israël, évidemment, sont en deuil. Un deuil national, d'accord, de tout l'âme Israël, suite à la mort de Aaron. Maintenant, curieusement, et c'est ça l'objet du cours d'aujourd'hui, les Bnei Israël vont plus pleurer le départ d'Aaron que le départ de Moshe. Et là, vous allez voir, le texte nous le fait comprendre très clairement. Donc, en fait, pour comprendre le cours d'aujourd'hui, on va juxtaposer deux versets. Et vous allez voir, je ne vais même pas vous le dire, je vais laisser le texte parler. On va juxtaposer deux versets, un verset dans la paracha de cette semaine qui nous raconte le départ d'Aaron et comment il a été pleuré par le peuple, et un second verset, bien plus tard, à la fin du Chumash, paracha Vezot HaBeracha, qu'on va lire à Simchat Torah, dans lequel on nous raconte le départ de Moshe. Et vous allez voir, on va laisser le texte parler, tout de suite on va comprendre qu'il y a un problème, ce n'est pas les mêmes termes qui sont employés pour Aaron et pour Moshe, et le texte va clairement faire comprendre, dans les détails, qu'on a plus pleuré la mort d'Aaron que la mort de Moshe. Alors évidemment, ça soulève plusieurs questions qu'on va développer dans le cours d'aujourd'hui. Ça, c'est qu'une introduction. Est-ce que ça veut dire que les Bnei Israël aimaient plus Aaron que Moshe? Est-ce qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond dans le comportement de Moshe Rabbeinu? Et surtout, quel est l'enseignement qu'on peut tirer pour nous dans la vie de tous les jours, en particulier dans les jours qui sont proches? Donc aujourd'hui, on est le jour de Gimel Tammuz, c'est-à-dire le jour de la Lévélade du Rabbi. Quel enseignement peut tirer pour nous dans notre vie de tous les jours? Donc voilà, donc ça c'est le thème du cours d'aujourd'hui. On va essayer de comprendre ce qui s'est passé après la mort de Moshe, ce qui s'est passé après la mort d'Aaron. On va essayer de comprendre les différences. Et on va comprendre pourquoi, apparemment, on a plus pleuré la mort d'Aaron que la mort de Moshe. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors on y va. Donc on va lire quelques versets, après on fera des pauses pour les questions avec plaisir. Donc, premier verset dans la référence numéro 1, c'est un verset dans la paracha de cette semaine. Parachat Roukat. On nous raconte Vayirou Kolaïda qui gava Aaron. Toute la communauté a vu qu'Aaron avait cessé de vivre. Pour ne pas dire mort. D'accord? Gava. Il a cessé de vivre. Puisqu'en fait, il faut bien comprendre, la mort d'Aaron, elle s'est passée où? Elle s'est passée dans une grotte. Qui était présent dans cette grotte?
Moshe.
Moshe et Elazar, le fils d'Aaron. C'est tout. Maintenant, le peuple a compris. Parce que lorsqu'ils ont vu, ils étaient trois à monter et qu'il n'y a que deux qui sont descendus. Et ils ont vu le regard de Moshe, et certainement les larmes de Moshe. Donc ils ont compris que Aaron était parti. Donc lorsque le peuple a vu qu'Aaron était décédé, écoutez bien la suite. Vaivku et Aaron shloshimium, toute la maison d'Israël pleura à Aaron, d'accord, pendant 30 jours, kol bet Israël, toute la maison d'Israël. Je dis bien, toute la maison d'Israël. Donc voilà, le texte nous dit qu'il y a eu un deuil de 30 jours, et qui était en deuil pendant 30 jours? Toute la maison d'Israël. Très bien. Maintenant, on va faire avance rapide. Et on va arriver à la paracha, Vezot HaBeracha, la paracha dans laquelle on nous raconte la mort de Moshe. C'est à la fin du Chumash. Et on nous raconte comment, c'est vraiment deux versets avant la fin du Chumash. On nous raconte comment Moshe est décédé. Et là, on nous raconte, regardez bien les détails. Vaivku bnei Israël et Moshe barvot Moab. Les enfants d'Israël pleurèrent Moïse dans les plaines de Moab. Shloshimium, 30 jours. Donc on va essayer de voir les différences. Combien de jours on a pleuré pour Aaron?
30.
Combien de jours on a pleuré pour Moshe?
30.
Donc est-ce que c'est la même chose?
Oui.
Oui. Maintenant, qui a pleuré pour Moshe et qui a pleuré pour Aaron? On va commencer par Aaron. Qui a pleuré pour Aaron?
Les hommes et les femmes.
Toute la maison d'Israël.
Les hommes et les femmes.
Attends, doucement. Doucement, Harry. Laisse le texte venir. Qui a pleuré pour la mort d'Aaron? Toute la maison d'Israël. Toute. Alors que, dès qu'on parle de Moshe, on dit les enfants d'Israël ont pleuré. Vous comprenez? C'est-à-dire le même texte qui a écrit ça dans la paracha de cette semaine, qui a dit que toute la maison d'Israël a pleuré, et juste après, enfin, quelques versets parachutes plus tard, quand on te parle de la mort de Moshe, on peut pas s'empêcher de comparer. On dit, mais attends, pourquoi pour Aaron tu me dis que toute la maison d'Israël a pleuré, alors que pour Moshe tu me dis, les enfants d'Israël ont pleuré?
Ceux qui vont rentrer.
Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette différence?
Ceux qui vont rentrer, les enfants.
Alors on va voir. Dans les commentaires, nous avons, après je suis sûr que vous avez peut-être des pistes pour répondre à cette question, mais je vais d'abord vous donner deux pistes qu'il y a dans les commentateurs. Une première piste, c'est une piste qui est donnée par un livre qui s'appelle Panéa Raza. Panea Raza, c'est un livre qui a été écrit par un tosafiste qui s'appelle Rabbi Yitzhak Bar Yehuda, qui a vécu en France, d'accord, qui a vécu en France au début du sixième millénaire. On est aujourd'hui en 5777, d'accord. Et donc, il a vécu, ça fait à peu près, on va arrondir à 770 ans, d'accord. Voilà. Donc, on va avoir un premier commentaire, le commentaire du Panea Raza, qui va expliquer pourquoi cette différence. Pourquoi pour Moshe, il y a eu moins de monde qui a pleuré que pour Aaron. Et on va avoir ensuite le commentaire de Rashi. Pas Rashi, on ne le présente plus, on le connaît. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que les deux commentaires que je vais vous donner sont des commentaires qui sont vraiment paradoxaux, qui sont même contradictoires, presque contradictoires. Un des commentaires va expliquer que le fait que les Bnei Israël ont moins pleuré pour Moshe, ça exprime la qualité de Moshe, alors que le commentaire de Rashi va expliquer qu'au contraire, le fait que les Bnei Israël ont moins pleuré pour Moshe, ça exprime la qualité d'Aaron. Et ça, on va laisser le texte parler.
C'est quoi le décalage entre les deux?
Le décalage, c'est que...
Il y a combien d'années qui séparent entre les deux?
Il n'y a pas de nombreuses années. Quelques mois.
Ah, c'est tout?
Oui, quelques mois. C'est rien. Tout le chômage de Varim, il dure 5 semaines. Ça y est, c'est fini, là. Là, on ne se rend pas compte, mais depuis la Parasha Shelach, on a passé 38 ans, c'est terminé. Là. C'est-à-dire que là, maintenant, on est... Ça y est, c'est la fin. Là, tous ceux qui veulent mourir sont morts. Maintenant, dernière ligne droite. On ne se rend pas compte, parce que ça va tellement vite, et on croit que ça traîne, alors qu'en vérité, ce n'est pas du tout proportionnel à l'heure des parachutes. Parasha Shelach et Korach à elle, seuls, 38 ans. Après, voilà, Choukat, c'est déjà la fin, là, ça y est. C'est la fin. Alors, je reviens à ma question. La question qui est, pourquoi pour la mort d'Aaron, on dit que toute la maison d'Israël l'a pleuré, alors que pour la mort de Moshe, on dit les enfants d'Israël. Et pas le mot toutes, d'accord? Et pas le mot maison, il y a les enfants d'Israël. Alors, analysons la première réponse du Panea Raza, le tosafiste. Qu'est-ce que nous dit le Panea Raza? Il nous dit, Keshemet Aaron, Ktiv, Kol Bet Israël. Lorsque Aaron est décédé, il est écrit que toute la maison d'Israël a pleuré. Des perouchos, ça veut dire Afil ou Anashim. Ça veut dire la maison. Regardez le texte. Des pirouches, ça veut dire, c'est traduit, je t'en souviens. Des pirouches, ça veut dire afil ou hanashim.
Même.
Référence numéro 2. Ça veut dire que même les femmes ont pleuré la mort d'Aaron. Pourquoi? Mipne chez As, parce que alors, mipne bechiat Moshe, puisque tout le monde voyait que Moshe pleurait, baruch kulam, tout le monde a pleuré, lirvodo veirato, par rapport à la crainte de Moshe, et par rapport au respect et à la crainte de Moshe. Ah, Valkan, mais ici, nous dit le Panea Raza, lo haya gadol ke Moshe Shebacha, étant donné qu'il n'y a pas de personne aussi grande que Moshe qui a pleuré, lo bachou et la anashim, c'est seulement les hommes qui ont pleuré. Très intéressant comme réponse, je vais expliquer. Mais pour vous donner cette réponse, je vais vous donner avec un exemple pour expliquer ça. Vous savez, des fois ça arrive, vous savez, moi je me rappelle par exemple, lorsque le Rav Azimov, Zichrono Livracha, il a perdu son épouse.
Son
épouse. D'accord? C'était, ça fait, je crois, 5-6 ans, ouais. Il a perdu son épouse. Bon, je connaissais pas spécialement son épouse. Peut-être que ma mère la connaît très bien, mon épouse un peu moins. D'abord, c'est une femme, quoi, voilà. Et en plus, c'est pas de mon âge, quoi. Je la connais pas spécialement. Moi, je me rappelle comme aujourd'hui, quand on était justement à la Levaya de Madame Azimov, la Rabbanit Azimov, Zichrona Livracha, et qu'on a tous vu le Rav Azimov, duquel on était très proche. On l'a tous vu en train de pleurer. Instinctivement, on s'est mis à pleurer. Pourquoi on s'est mis à pleurer? Si on n'avait pas vu le Rav Azimov pleurer, est-ce que moi j'aurais pleuré?
Ouais.
Non, je pense pas que j'aurais pleuré. Je pense pas que j'aurais pleuré parce que je pleure pour quelqu'un que tu connais. Et je peux pas dire que je la connaissais au point de pleurer. Mais quand tu vois quelqu'un qui est très important qui pleure, ça te fait comprendre que la personne qui est partie est très importante. Et donc automatiquement, puisque cette personne que tu vois pleurer pour toi est une personne qui est une référence, donc automatiquement, tu te mets à pleurer. Alors le Panea Raza, il dit c'est très simple. Il dit, vous savez pourquoi il y a eu plus de monde qui a pleuré pour Moshe, pour Aaron, pardon, que pour Moshe? Il dit c'est très simple. Parce que lorsque Aaron est parti, Moïse était là. Donc tout le monde voyait Moshe pleurer. Donc tout le monde a pleuré. Mais lorsque Moshe est parti, qui l'a laissé derrière lui?
Les enfants.
Qui l'a laissé? Est-ce qu'il a laissé un géant comme lui qui pleurait? Non. Donc comme il n'a pas laissé un géant comme lui qui pleurait, donc du coup on l'a pleuré comme on pleure. Non, ouais. Ceux qui l'ont connu ont pleuré. Maintenant qui le connaissait?
Les anciens.
Ceux qui le connaissaient, ceux qui le côtoyaient tous les jours. Oui, oui. Est-ce qu'une femme du camp d'Israël connaissait Moshe Rabbeinu? Non, elle le côtoyait pas spécialement. Moshe Rabbeinu, il enseignait la Torah aux hommes. Il n'était pas côtoyé par les femmes. Donc dit le Panea Raza, il dit, ne croyez pas que c'est une lacune de Moshe si on a moins pleuré pour lui. C'est pas une lacune. En vérité, au contraire, ça prouve la grandeur de Moshe. que pourquoi on a pleuré pour Aaron? Parce qu'on a vu Moshe pleurer. Et pourquoi on a moins pleuré pour Moshe? Parce qu'il n'y avait personne derrière lui qui était aussi grand que lui et qui nous montrait l'exemple qu'il fallait pleurer.
Mais ils ont vu leur mari pleurer quand même.
Oui, mais bon, c'est pas aussi grand que Moshe.
Non, mais j'ai compris, mais c'est leur mari pleurer.
D'accord.
Ça te fait des trucs quelque part.
Oui, tu comprends que c'est pas la même chose quand tu vois un géant pleurer.
Mais toute la génération était déjà morte.
Je vais te donner un autre exemple. Tu sais, quand on a vu aussi, moi j'étais tout petit, moi, j'avais même pas 7 ans. Mais lorsque lorsque le rabbi a perdu son épouse, l'épouse du rabbi, personne ne la connaissait. Parce qu'elle ne voulait pas être devant la scène. Personne ne la connaissait. Mon père, le rabbi, il est parti pour les levaya. Il est parti pour les levaya de l'Arman. Il est parti pour les Shiva. D'accord. Et voilà, je me rappelle la peine qu'il y avait. Aujourd'hui, on voit des vidéos, on voit comment les gens étaient là, en train de pleurer, etc. Mais il ne la connaissait pas. Mais quand tu voyais le visage du rabbi meurtri parce qu'il a perdu sa femme, tu ne peux pas ne pas avoir de la peine. C'est ton repère. Combien d'exemples on a comme ça? Ou par exemple, tu vas voir quelqu'un, par exemple, quelqu'un va dire, par exemple, il a perdu son grand-oncle. D'accord. Un parent, il va dire, perdu son grand-oncle. Bon, toi, tu ne connais pas spécialement, donc tu ne peux pas pleurer. Mais quand tu vois qu'un proche à toi, que tu considères être une référence, ça peut être ton père, ta mère, c'est shalom, d'accord, tu le vois en train de pleurer, tu comprends que c'est une personne importante, donc automatiquement, tu communiques avec ça. Alors, voilà la première raison. Première raison du Pané à Raza, il nous dit, comment ça se fait qu'on a plus pleuré le départ de Moshe, de Aaron, que le départ de Moshe? Parce que lorsqu'Aaron est parti, Moshe pleurait. Donc, il montrait l'exemple. Alors que lorsque Moshe est parti, il n'y avait personne qui montrait l'exemple. Donc ça, si on suit ce commentaire, ça veut dire que Moshe n'avait rien à se reprocher par rapport à Aaron. Ça, c'est le commentaire du Pané à Raza. Sauf que vous allez voir, Rashi va nous donner une tournure complètement différente. Et il va dire que non, il y avait une lacune chez Moshe. Et que c'est la raison pour laquelle on a moins pleuré Moshe qu'Aaron. Et d'ailleurs, dans la suite du cours, on va baser notre commentaire principalement sur le commentaire de Rashi. Et lisons-le, ce commentaire de Rashi. Rashi, c'est juste en dessous. Kol Bet Israël. Qu'est-ce que nous dit Rashi dans la paracha de cette semaine? Il nous dit, qui a pleuré à Aaron? C'était toute la maison d'Israël. Qu'est-ce que nous dit Rashi? Ça veut dire quoi, toute la maison? Il faut savoir que dans la Torah, lorsqu'on dit le terme maison, ça représente quoi?
La femme.
Ça représente les femmes. D'accord? Donc si on dit toute la maison d'Israël, ça veut dire quoi? Ça veut dire Ha'anashim ve'anashim. Les hommes et les femmes ont pleuré Moshe. Pourquoi? Là, regardez la raison qu'il donne, complètement différente. Les filles, Shaya Aaron, Rodev Shalom. Parce que Aaron était épris de paix. Il poursuivait la paix. Umatil Ahava ben Baalem Eriva. Il rétablissait la concorde entre les rivaux. Lorsqu'il voyait deux personnes en train de se disputer, il s'arrangeait pour trouver tous les stratagèmes possibles pour leur faire faire la paix. D'accord? Et bien sûr, Banish Leishto, entre un homme et sa femme, qui peuvent se disputer, ça peut arriver des fois. Des fois, dans certains couples, l'homme peut disputer avec la femme, c'est possible. C'est... Dans la planète Mars, ça arrive des fois. D'accord? Alors, et donc, Aaron, dès qu'il voyait qu'un homme était accroché avec sa femme, ou dès qu'il voyait que Monsieur Reuven était accroché avec Monsieur Shimon, ou Madame Sarah était accrochée avec Madame Léa, qu'est-ce qu'il faisait? Aaron, il faisait la paix entre les gens. C'est pour ça qu'Aaron était un personnage qui était proche de tout le monde. Donc quand il est parti, tout le monde a pleuré. Ah, et Moshe. Dit Rashi, dans la paracha de Berakha. Pour Moshe, qui a pleuré Moshe? Bnei Israël. Les enfants d'Israël. Déjà, il n'y a pas les filles. D'accord? C'est pour ça que nous dit Rashi, Azeharim. Il n'y a que les hommes qui ont pleuré la mort de Moshe. Aval. Ah oui, les fils d'Israël, exactement. Aval, mais... Oui, mais attendez. Les fils d'Israël, exactement. Parce que là, il faut comprendre Béné dans le sens des fils. Aval be Aaron, mais concernant Aaron, Néhémar, il est écrit, Kol bet Israël, toute la maison d'Israël, Zecharim ou Nekevot, ça veut dire les hommes et les femmes. Donc là, on voit bien que d'après Rashi, on a plus pleuré Aaron. C'est pas parce que Aaron et Moshe qui montraient l'exemple qu'il fallait pleurer. C'est tout simplement parce que Aaron était plus proche du peuple. Et donc, quand il est parti, tout le monde se sentait proche de cette personne. Donc, c'est pour ça que tout le monde a pleuré. Alors qu'apparemment, pour Moshe, moins de monde ont pleuré. Alors, moi, si vous voulez, deux secondes, avant de poser vos questions. Donc, ça veut dire, d'après Rashi, on est très clairement en train d'insister sur la qualité d'Aaron, d'accord? Et le défaut, quelque part, on peut appeler ça, en tout cas, un défaut de Moshe. Alors, moi, il y a une question très simple. Que je vais me poser. Comment ça se fait que la Torah cherche à exprimer ça au moment où Moshe Rabbeinu il meurt? Ça veut dire qu'on a attendu la fin de la Torah pour te faire un petit clin d'œil, pour te dire, ah, tu vois, les enfants d'Israël, je dis là, mais pas toute la maison. Ça veut dire, comme ça, c'est le dernier mot de la Torah, le jour de la mort de Moshe, pour dire, tu vois, pour terminer pour cette note, pour dire, ouais, mais ils l'ont pas tous pleuré. Bon, même si tu avais une critique à émettre avec Moshe, on avait 5 livres de la Bible hein, pour en parler. Il ne fallait pas attendre la fin. Pourquoi t'attends la fin pour en parler, pour casser dessus sur Moshe Rabbeinu? Et en plus, la question qu'on pourrait se poser, c'est une question très simple qu'on va poser tout de suite. Est-ce que vous croyez vraiment que Moshe Rabbeinu n'était pas épris de paix comme Aaron, son frère? Vous croyez que Moshe ne cherchait pas à ramener la rétablir la concorde entre les rivaux? C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qu'on nous raconte? Celui qui lit le texte de Rashi, il a l'impression que dès que Moshe il voyait un homme et une femme se disputer, il dit « Bah allez-y, disputez-vous, bonne santé !» Alors que dès qu'Aaron va, il dit « Attends, on va faire le shalom !» Vous croyez vraiment que Moshe ne cherchait pas à faire le shalom entre les gens? Alors qu'est-ce qu'on nous raconte ici? Si on dit comme le commentaire du Tosafis qui a dit que bon, en vérité Moshe et Aaron sont du même niveau, sauf que quand Aaron est parti, Moshe montrait l'exemple qu'il fallait pleurer. Là, je comprends, ils sont du même niveau. Mais Rashi n'a pas dit ça. Rashi, très radical a priori. Il te dit non. Il te dit, on a plus pleuré la mort d'Aaron que la mort de Moshe, parce qu'Aaron était plus proche du peuple. Et Aaron rétablissait la paix entre les rivaux. Et Aaron, quand un homme se disputait, cherchait à rétablir la paix. Sous-entendu, Aaron le faisait, mais Moshe ne le faisait pas. Alors là, vous croyez vraiment que Moshe ne le faisait pas? Alors si vous voulez, dans la suite, du coup, mais on va faire une pause pour les questions, on va montrer, on va prouver que Moshe Rabbeinu aimait le peuple juif. Et que c'est la dernière personne sur laquelle on peut dire qu'il n'en avait rien à faire quand deux juifs étaient disputés. Et donc ça va amplifier notre question.
Mais toute la discussion est sur une traduction, parce que dans un cas, ça a été traduit en un par les enfants, et dans l'autre...
Non, le premier, c'est toute la maison.
Non, les enfants.
Lequel?
Vera Aberara, c'est traduit les enfants.
Les enfants, oui.
Et Rachid traduit les filles.
Oui, mais bien sûr.
Mais est-ce qu'on peut si on traduit les enfants, il y a aussi les filles. Donc c'est donc quelle est la bonne traduction hébraïque?
C'est ce que nous dit Rachid, parce que vous comprenez que pour comprendre ce pasouk, il faut voir le pasouk d'avant. C'est-à-dire comment c'est que dans le pasouk d'avant, on te dit toute la maison. Bon, je veux dire, Moïse et Aaron sont deux personnages qui sont proches. Donc c'est inévitable qu'on allait comparer les deux versets.
Oui.
30 jours, qu'on allait les comparer. Or dans le premier verset, on te dit toute la maison d'Israël. Donc le lecteur qui lit après les enfants d'Israël, il comprend qu'il y a un message. Il comprend qu'il y a un message que les enfants, ça veut dire les fils d'Israël. Et donc je reprends ma question. Comment c'est possible de dire que vous croyez vraiment qu'on peut dire que Moshe Rabbeinu il n'aimait pas le peuple, il n'aimait pas rétablir la discorde entre les gens?
Est-ce que c'est pas un faux débat?
Pourquoi?
Est-ce qu'on confond la fonction avec la personnalité, là? On est en train de mélanger les choses.
Non, d'accord, pas du tout.
Non, mais je veux dire, Aaron, d'après ce que je comprends, ou d'après ce que je sais, prenez-moi si je dis des bêtises, Moshe était plutôt en relation avec Dieu, et il transmettait à Aaron des choses à faire. Et Aaron a peut-être été en contact direct du peuple, et que Moshe, lui, était plutôt... relation divine, et que c'est la fonction qui a fait que les gens étaient plus...
C'est peut-être une bonne réponse que vous dites, mais c'est pas la réponse qu'on nous donne ici. Parce que la vérité, c'est que les deux étaient proches de Dieu, les deux étaient proches des hommes.
Oui, mais on voit bien qu'à chaque fois, que tous les commandements divins passaient par. Moshe, et Moshe distribué à Aaron.
Moi, j'ai une question à vous poser. Regardez. Oui. Imaginez que vous avez un homme et une femme qui sont disputés, et qui prennent rendez-vous chez Moshe. Qu'est-ce qu'il leur dit, Moshe?
Allez voir Aaron.
Oui. Il ne sait pas rétablir la paix entre eux.
Ils
prennent rendez-vous chez Rabbi Moshe. Allez, Rabbi Moshe.
C'est pas Aaron, voilà. Et si ça va pas avec...
Arrêtez, on l'appelait Moshe, tellement c'était affectif.
Mais non, il casse une roue de secours.
Non, mais attendez, pas du tout.
Je veux dire, d'abord, regarde avec moi.
Vous savez qu'il y avait la queue devant Moshe Rabbeinu, c'est d'ailleurs ce que Yitro lui a reproché. Il lui a dit, il y a la queue devant chez toi toute la journée.
Oui, mais il a délégué. Je
voyais pas. Ah, d'accord, même s'il a délégué. Non. Il a dit, il y a la queue devant chez tous les jours. Vous croyez vraiment que Moshe ne cherchait pas à rétablir la paix? Il faut chercher plus loin. Il faut dire que si Aaron arrivait à rétablir la paix plus que Moshe, c'est parce qu'Aaron avait une touche que Moshe ne pouvait pas faire. Pourquoi? Je sais pas encore. Parce que il est clair que les deux sont animés de bonnes intentions. Il faut être clair. Voilà. Or, apparemment, chez Aaron, ça marche mieux que chez Moshe. Pourquoi? Il a un meilleur bagou. Il a des meilleures idées.
Il a une sensibilité peut-être plus...
Je pense pas qu'Aaron a une meilleure sensibilité que Moshe. Vous savez, une personne qui est capable de tout mettre de côté, de mettre de côté sa vie pour s'occuper d'un peuple, et un peuple comme le peuple juif, qui est un peuple très très compliqué à gérer, je vous garantis que ce n'est pas une personne qui déteste le peuple juif. Hein, parce qu'une personne comme ça, il prend ses clics et ses claques et il s'en va. C'est clair. S'il y en a un qui aime le peuple juif, bah oui.
Samedi, on a étudié qu'il a quand même défendu Datam
et Aïma. Évidemment, bien sûr, évidemment. Alors, si vous voulez, ce qu'on va faire dans la suite de secondes, je vais vous montrer quelques anecdotes de la vie de Moshe, pas beaucoup, quelques-unes, pour vous montrer que Moshe Rabbeinu était très gentil, très généreux, très bon, très aimable et qu'il aimait le peuple juif. Donc, en fait, tout ça pourquoi? Pour enlever et repousser l'argument qui dit que Moshe n'était pas n'avait pas l'amour du prochain comme Aaron. Donc évidemment tout ça, ça ne fera qu'amplifier la question. Si on dit que Moshe aimait le peuple juif comme Aaron, pourquoi Aaron réussissait mieux à rétablir la paix entre les gens?
Est-ce que Rachid se contredisait un
peu? Non, il ne se contredit pas. Non, Rachid a une approche très simple. Il dit Aaron en a plus pleuré parce que lui, il rétablissait la paix. Pourquoi Moshe ne rétablissait pas la paix? Pourquoi il rétablissait la paix?
Il était trop bête.
On va voir.
Les ongles,
oui, on va voir. C'est pas si simple. On va voir. Ça veut dire quoi? J'ai deux personnes qui sont là qui se disputent. Je fais quoi? Alors on va voir. Mais d'abord, avant, oui, allez-y.
C'est comme en politique, quelqu'un qui fait un quinquennat.
Non, attendez, non. La politique, c'est un monde faux. Non, mais voilà.
On retient très souvent.
Parce qu'il a dit tout à l'heure, il ne faut pas confondre la fonction
et.
Justement, c'est un CD qu'on confond.
On peut retenir l'ensemble du côté négatif ou peut-être un petit peu du côté positif. Et le côté positif, peut-être que ce qu'il y avait à Rome, c'était surtout quand il a fait le veau d'or. Donc, il a arrangé le veau d'or pour faire plaisir aux
femmes. Non, le veau d'or.
C'est peut-être ça qu'ils ont retenu.
Attendez. Vous savez. Regardez. Là, on a une situation donnée. Les deux vont vivre longtemps. D'accord? Ils vont vivre très longtemps. Ils vont être très respectés par leur peuple. Pour un, c'est un deuil national de 30 jours pour les hommes et les femmes. C'est-à-dire qu'à la maison, le mari et la femme pleurent. Voilà, c'est clair. Pour le deuxième, pour Moshe, ben, rentre à la maison. Bon, la femme continue à faire ses ménages, ses courses, etc. Et le mari pleure.
Il pleure,
il a perdu son maître. Moi, j'ai pas perdu. Moi, j'ai pas perdu mon maître, mais bon, c'est pas. Bon, elle pleure pas. Pourquoi? Qu'est-ce que dit Rachid? Rachid te dit oui, parce que Aaron, il rétablissait la paix. Pourquoi Moshe, il rétablissait pas la paix? Tu crois que Moshe, il aimait pas le peuple juif? Surtout que, regardez, on a dit que Aaron, il poursuivait la paix. Et Moshe, tu crois qu'il aimait pas le peuple juif? Alors, si vous voulez, je disais, on va donner quelques exemples de la vie de Moshe Rabbeinu. Pour montrer que Moshe Rabbeinu s'occupait pleinement, avec amour, de tous les besoins des enfants d'Israël, les besoins matériels et les besoins spirituels. Tout d'abord, on a une Gemara, référence numéro 3 dans le traité Menachot. Référence numéro 3, on va prendre les mots. Qui nous dit que Moshe Rabbeinu Ohev Israël Aya. Moshe Rabbeinu aimait le peuple juif. Et bien, il y a toute une histoire dans la Gemara là-bas, dans laquelle il y a un débat entre deux sages. Il y avait un sage qui respectait la tradition et un autre sage qui était ce qu'on appelle le Baitusim. Les Baitusim, c'est ceux qui ne respectaient pas la Torah orale. Et là-bas, il y avait tout un débat. Et en fait, il y en a un qui voulait dire à l'autre, ouais, Moïse, il aimait pas le peuple. D'accord? Et là-bas, le maître, il lui répond, il dit, pas du tout, tu n'as pas le droit de parler comme ça. C'est le mot de la Gemara. Il dit, Moshe Rabbeinu, il aimait le peuple. Mais je vais vous donner un exemple pour vous montrer comment Moshe Rabbeinu, il aimait le peuple. Regardez. La Gemara nous raconte juste en dessous. Dans le traité Eruvin. Ketzad, Seder Mishnah. Comment se passait le Seder de l'enseignement? Ça veut dire, comment s'est passé un enseignement typique du peuple juif? Voilà. Moshe Rabbeinu, il recevait les ordres de Dieu. Très bien. Donc, Moshe Lamad, il pia Gvura. Moshe, il entend directement de Dieu. Une fois que Moshe entend, qui rentre pour venir voir Moshe pour entendre ce qui a été dit? Nirnas Aaron. Aaron entre dans le bureau de Moshe. Veshanalo Moshe Pirko. Et Moshe lui dit, voilà ce que Dieu m'a dit. Très bien. Nirnasu Banav. Ensuite, les enfants d'Aaron entrent. Veshanalai Moshe Pirkan. Et Moshe leur enseigne, dit, voilà ce que Dieu a dit. Nirnasu Skenim. Ensuite, les anciens entrent. 70. Veshanalai Moshe Pirkan. Et Moshe leur répète ce que Dieu a dit. En la datant, bien sûr. Nirnesu Kolaham. Ensuite, tout le peuple entre. Veshanalai Moshe Pirkan. Et Moshe leur enseigne Pirkan, leur enseignement. Ça veut dire qu'on voit clairement, écoutez bien, que chaque fois que Moshe Rabbeinu entendait une parole de Dieu, d'abord il a dit à Aaron, ensuite Aaron partait. Ensuite, les enfants d'Aaron rentraient, ensuite ils partaient. Ensuite, les anciens entraient, ensuite ils sortaient. Et ensuite, tout le peuple venait, et là, Moshe parlait à tout le monde, tout le peuple, d'accord, et il leur disait la parole de Dieu. Là, il y a un problème. Normalement, dans un système normal, il y a une hiérarchie. Ça veut dire, Moshe, c'est le PDG. Bon, excusez-moi, j'ai un peu cru, mais il parle à Aaron, d'accord, qui lui va parler à ses enfants, qui lui va parler aux anciens, qui eux vont parler aux anciens, et qui eux vont parler au peuple. On est d'accord? C'est comme ça que ça fonctionne. C'est un système pyramidal. Maintenant, on n'a jamais vu dans une structure qu'un PDG répète la même chose à son adjoint, d'accord, au sous-adjoint, etc., jusqu'à répéter au peuple. Ça n'existe pas. Ça marche pas.
Sauf s'il est parano.
Sauf s'il est parano, exactement. Mais Moshe n'est pas parano. Alors pourquoi il fait ça? Eh bien ça, la Gemara nous dit, c'est pour nous montrer l'amour qu'avait Moshe pour le peuple juif. Parce que Moshe Rabbeinu, il avait un argument très simple. Il s'est dit, regarde, qui a entendu la Torah directement de Dieu? C'est moi. Qui a la ferveur d'une personne qui a entendu de Dieu? C'est moi. C'est-à-dire que personne ne pourra le répéter avec la même ferveur que moi. C'est impossible. Avec la meilleure volonté au monde.
Mais c'est pour ça.
Alors justement, donc c'est pour ça, qu'est-ce que dit Moshe Rabbeinu ? Par amour du peuple juif, bien que Dieu ne m'a pas demandé de leur répéter directement. Ça veut dire qu'à la limite, si je répète à Aaron, qui répétera à ses enfants, qui répéteront aux anciens, qui répéteront au peuple, je serai parfaitement en équation avec ce que Dieu a demandé. Dieu a demandé d'ordonner aux enfants d'Israël, je l'ai fait. Il n'y a pas de problème. Dieu n'a pas dit ordonne directement. Ce qui compte, c'est que l'ordre passe.
C'est pas plutôt l'inverse.
Non.
C'est pas plutôt dans la crainte de ne pas.
Non, pas du tout. Pourquoi tu interprètes mal?
Non. C'est plus... Là, tu dis, il a répété 4 fois les choses, oui, parce qu'il aime le peuple.
Non, ça veut dire comme ça. Parce que tellement il aime le peuple.
Alors,
qu'il se dit
à chacune des personnes.
Exactement.
Chacune des catégories.
Chacune. Pourquoi? Pourquoi il répète à chacune des catégories? Parce qu'il se dit comme ça. Il aime chaque catégorie.
Ah oui,
et il se dit, si je leur dis pas directement, maintenant il faut bien comprendre qu'à chacune des 4 catégories, on parle différemment. C'est-à-dire, ça veut dire qu'on répète pas de la même façon à Aaron, à ses enfants, aux anciens et au peuple. Et donc Moshe, il s'est retrouvé lui à adapter le même message à 4 catégories de personnes différentes. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, personne ne pourra avoir la même ferveur que moi.
Est-ce que c'est pas plutôt, cette raison-là, c'est pas plutôt dans la crainte de Hakadosh Baruch Hu que le message qui lui a été donné, c'était il a adapté à 4 genres différents pour ne pas qu'il soit justement des natures.
Mais Dieu ne l'a pas demandé.
Ben voilà.
Il y a un message. Par exemple, Dieu il dit, tu vas leur dire qu'ils doivent mettre les tefilines. Bon. Alors qu'est-ce qui se passe? Moshe il dit à Aaron, qui dira à ses enfants, qui dira aux anciens, qui diront à tout le peuple, il faut mettre les tefilines. L'ordre, c'est de mettre les tefilines. C'est bon, on connaît. S'il y a un problème, eh ben on remonte. D'accord? Le peuple remonte aux anciens, qui remonte aux enfants, tatatata. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pyramidal. C'est-à-dire que normalement, on descend, et s'il y a un problème, on remonte. Celui qui, l'échelon d'au-dessus doit répondre, il n'arrive pas à répondre au-dessus. C'est pyramidal. Mais Moshe ne fait pas un système pyramidal. Pourtant, il l'a fait pour plusieurs choses. Mais pour l'enseignement de la Torah, tellement Moshe Rabbeinu aimait le peuple, qu'il a fait plus que ce que Dieu a demandé. Je sais pas si vous imaginez la galère que c'était pour Moshe Rabbeinu de répéter le même enseignement 4 fois. Et pas seulement le répéter, l'adapter à 4 catégories de personnes différentes. Je sais pas, c'est comme si vous dites par exemple, vous avez un grand professeur qui va se retrouver à expliquer le même message à un collègue, à un élève, d'accord, à un élève apprenti et à quelqu'un du peuple qui connaît rien du tout. Et le même professeur, il a eu un message, il a eu une idée qu'on lui a donnée, il va la répéter à 4 catégories de personnes. Mais c'est une souffrance, c'est énorme.
Ça c'est un exemple
très clair dans lequel on voit que Moshe Rabbeinu, il est évident que Moshe Rabbeinu aimait le peuple juif. Ça, dire que Moshe n'aimait pas le peuple juif, c'est une phrase qu'on ne peut pas dire. Mais j'ai pas fini. D'accord? S'il vous plaît, 2 secondes, je vais terminer Non, mais il faut me laisser, s'il vous plaît, excusez-moi. Il faut me laisser terminer le raisonnement. D'accord? Non, je sais que vous avez des questions, c'est certainement des très bonnes questions, mais il faut qu'on avance le raisonnement. Maintenant, Moshe Rabbeinu, alors ce qu'on dit que Moshe Rabbeinu, il enseignait la Torah au peuple juif, alors qu'il n'avait pas l'obligation de le faire. D'accord? Qu'est-ce qu'il enseignait la Torah? Qu'est-ce qu'il enseignait? Il enseignait, nous dit la Gemara, il enseignait pas seulement les halachot. Parce que, regardez. Lorsque Dieu a dit à Moshe Rabbeinu, ordonne aux enfants d'Israël de mettre les téfilines. L'ordre était d'ordonner aux enfants d'Israël comment on met les téfilines. Maintenant, tout le pile-poule qu'il y a derrière, c'est-à-dire toutes les complications qu'il y a derrière, le développement de la Torah, eh bien, écoutez ce qu'on va voir dans la Gemara Nedarim. La Gemara va nous raconter que le pile-poule, le développement de la Torah orale, a été donné en cadeau à Moïse. Dieu n'a jamais demandé à Moïse de retransmettre le développement, le pile-poule de la Torah orale. C'est-à-dire, Dieu a juste demandé à Moïse, tu vas leur donner les ordres. Tu dis, voilà, on fait ci, on fait ci, on fait ci, on fait ça. Et toi, Moshe, je te donne à toi, comme je t'aime, je te donne en cadeau le développement de la Torah. Le développement, ça veut dire tous les pour et les contre, on prend, etc., dans tous les sens. C'est-à-dire qu'on aurait pu se passer de ça. Moshe aurait pu lui donner les conclusions, et nous, on respecte Moshe. Seulement, Moshe, il est tellement gentil, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, mais attends, un cadeau comme ça, un cadeau comme la Gemara, tu crois que je vais le... Ça veut dire que la base de la Gemara, c'est Moshe qui l'avait. Moshe, il a dit, tu crois qu'un cadeau comme ça, je vais le garder pour moi? Il s'est pris la tête, allait nous l'enseigner. Maintenant, c'est une prise de tête. Regardez juste, nous, la galère qu'on a pour essayer d'étudier une page de Gemara. Maintenant, imaginez que Moshe, il devait enseigner à tout le monde ça. Alors que Dieu ne lui a même pas demandé. Dieu lui a dit, c'est un cadeau privé que je te donne. Pour toi. C'est-à-dire, moi, ce qui compte, c'est que les enfants d'Israël, ils accomplissent la Torah. C'est tout. Maintenant, toi, je te donne un cadeau, le développement de la Torah. Je te donne un cadeau. Et qu'est-ce que dit la Gemara? L'eau nitna pilpoula de Torah, le pilpoul de la Torah, d'accord? La partie halachique de la Torah a été donnée à Israël, mais le pilpoul de la Torah, le développement de la Torah a été donné, et là les Moshe ou les Zaro, seulement à Moshe et à sa descendance directe, ça veut dire à Moshe et à ses enfants. Ça veut dire que c'était un héritage personnel de Moshe, qui devait être hérité par ses enfants. Qu'est-ce qu'a fait Moshe? Moshe nahagbat tovat aïn. Moshe fut généreux, ou netana l'Israël a donné à Israël. Ça, c'est pas quelqu'un qui aime le peuple, ça? Vraiment. Regardez, regardez, deux secondes, la référence numéro 4. Est-ce que c'est pas quelqu'un qui aime le peuple, ça, de dire quelqu'un comme ça, qui est quelqu'un qui se prend la tête pour nous enseigner directement, et en plus, il nous enseigne pas seulement les halakhot, les lois, il nous enseigne le développement, parce qu'il dit, Dieu m'a donné un cadeau, moi je garde pas les cadeaux pour moi, moi je vous le donne. Plus que ça, Moshe Rabbeinu ne s'est pas occupé que de nos besoins spirituels, parce que ça c'est les besoins spirituels, tout ça, ce que maintenant. Ils sont occupés aussi de nos besoins matériels. Comme on va l'étudier cette semaine, Shlosha Parnassim Tovim Amdoul Israël. Israël, le peuple juif, eut trois bons fournisseurs. C'est le terme qu'ils utilisent. Trois bons fournisseurs. Et donc, c'est qui ces trois fournisseurs? Moshe, Aharon et Myriam. Et chacun des trois fournisseurs a eu un mérite qui nous a donné quelque chose. Be'er, le puits qu'on avait dans le désert. Le puits qui nous accompagnait constamment. Un puits qui bougeait avec nous et qui avait tout le temps de l'eau. Bah, voilà, c'est un miracle, évidemment. Bisrout Myriam, il est venu par le mérite de Myriam. Amoud Anan, la colonne de nuée. Les nuées qui nous protégeaient de nos ennemis. Qui nous protégeaient du soleil. Qui nous protégeaient des flèches. Qui nous protégeaient de tout ce que tu veux. Ils sont venus par le mérite de qui? Bisrout Aaron, par le mérite d'Aaron. Man, la manne qu'on mangeait tous. D'accord? Bisrout Moshe est venu par le mérite de Moshe. On écoutez bien la suite. Meta Myriam. Dans la paracha de cette semaine, Myriam est décédée. Lorsque Myriam est décédée, le puits est parti. Il est revenu par le mérite de qui? Vechazra Bisrout Shneem. Il est revenu par le mérite de Moshe et d'Aaron. Maintenant, Meta Aaron. Aaron est mort. Donc là, si Aaron est mort, qu'est-ce qui s'est arrêté? Ah non, les nuées et?
Et
le puits. Parce que le puits, il était par le mérite de Moshe et d'Aaron. Mais maintenant, il n'y a plus Aaron.
Il avait tout.
Donc, dans la paracha de cette semaine aussi, Aaron meurt. Et lorsqu'Aaron meurt, eh ben, du coup, il reste plus que la manne. Il y a plus l'eau. C'est pour ça qu'ils vont se plaindre d'ailleurs. Ils vont dire, on n'a pas d'eau. Donc, il y a plus d'eau et il y a plus de nuée. Chazrou, Shneem, Bisrout, Moshe. Eh ben, Moshe, il a intercédé. Et tous les trois sont revenus par le mérite de Moshe. C'est-à-dire que Moshe, c'est une personne qui s'occupe du peuple juif, qui est au petit son du peuple juif. C'est-à-dire qu'il est même à prendre les postes des autres. Il dit, bon, il y a plus Aaron, il n'y a plus Myriam, je prends son poste. Pas de problème. Je prends son poste. Moi, je vais amener. Donc, il est clair, quand on lit ça, que Moshe Rabbeinu aime le peuple juif. On est d'accord. Donc, je réitère ma question. Si on dit, et c'est très clair, hein, toute personne qui lit, d'ailleurs, c'est une évidence. Je vais amener des preuves pour amener des preuves, mais c'est une évidence que Moshe aime le peuple juif. Et là, on a amené ces preuves pour montrer que c'est pas stam un amour. C'est un amour très profond. C'est un amour dans lequel il s'implique. C'est un amour dans lequel Moshe Rabbeinu, il donne sa personne, il donne tout. Ça veut dire, il donne même les cadeaux personnels que Dieu lui a donné. Et il est là, il s'implique et il donne. Alors, j'ai une question à vous poser. Tu crois vraiment que lorsqu'un homme et sa femme se présentent devant Moshe Rabbeinu, il dit, ouais, bah, vous savez quoi, bah, écoutez, arrangez-vous. Tu penses qu'une personne comme ça, comme Moshe Rabbeinu, qui s'est tellement impliqué pour le peuple, tu crois qu'il rétablissait pas le shalom? Ah, pourquoi tu me dis qu'Aaron, il rétablit le shalom et pas Moshe? C'est quoi cette différence?
Ah, bah, il avait un problème hein? De langage.
Aussi. Non, bah, oui, d'accord. Non, mais, vous savez, un mot de Moshe, c'est un mot, c'est une bombe.
Il y a des gens pour mettre le shalom.
Alors, il y avait des questions, allez-y.
Il y a des gens pour rétablir le shalom, il y a des débats. Il y en a qui font des
câlins. Non, d'accord.
Peut-être que lui mettait des bâches.
Je sais pas. Pour l'instant, on ne sait pas.
Il pouvait tricher, non?
Hein?
Quoi?
Aïe, aïe, aïe.
Comment ça se passe, donc?
Il a du kilométrage, attention. Hein, alors.
C'est coup de boule ou...
Alors, il y avait des questions. Allez-y. Il y avait des questions, je crois, non? Il n'y a plus de questions, ça y est?
Oui, non, mais...
Ah, oui, ou non, alors?
Là, c'est entre parenthèses. Je ne discute pas l'amour de Moshe au peuple d'Israël. Mais...
Mais vous avez dit...
Entre Marloc et...
Marloquette?
Marloquette et un pile-poule. Un pile-poule, il y a un marloquette dans le pile-poule, non?
Oui, d'accord. Mais ma question est très simple. Comment on peut... Donc, est-ce que Moshe aimait le peuple juif?
Oui, ça...
C'est... D'un amour de quelle ampleur?
Il a donné toute sa vie.
Énorme, exactement. Ouais. Je vais vous dire plus que ça. Vous savez quoi? Qu'Aaron me pardonne. Moi, je pense que Moshe, il est le peuple juif plus qu'Aaron.
Oui, mais c'est...
Ah oui? Mais attendez, qu'est-ce que vous croyez?
C'est pas la même chose.
Non, mais attendez. Aaron, le soir, il rentrait chez lui à la maison.
Oui,
il y avait sa femme.
Oui, mais Mendy...
Moshe, il a donné toute sa vie, ses journées, ses nuits.
Mais c'est
comment on peut venir à la fin du roumash, pas déclarer comme ça, dire, oh, Moshe, ouais, Moshe... Ouais.
C'était peut-être trop fusionnel. Hein? C'était peut-être étouffant. C'était peut-être un amour étouffant.
Donc, alors...
D'un point de vue psychologique, vous avez parfois un amour qui est...
Alors, en fait, certainement qu'il nous manque quelque chose.
D'ailleurs, il y a Freud qui...
Certainement qu'il nous manque quelque chose. Certainement qu'il est évident que Moshe aimait le peuple juif. Ouais. Autant qu'Aaron, peut-être même plus. Mais que Moshe, il avait une façon de faire les choses qui n'était pas comme Aaron, pour une raison qu'on ne sait pas pour l'instant, mais qu'on va développer. Et ce qui faisait que ça ne marchait pas aussi bien qu'Aaron. Il y avait un ingrédient qui manquait. Quel ingrédient manquait chez Moshe? Pourtant, il y mettait du sien. Donc il devait certainement manquer un ingrédient. Donc je rappelle, on a une question, donc ne vous compliquez pas la vie, on a une question toute simple qu'on pose depuis le début du cours. C'est la même question. Voilà. La question est, d'après Rashi, on nous dit que la raison pour laquelle les Bnei Israël ont pleuré plus la mort d'Aaron que la mort de Moshe, c'est parce que Aaron aimait la paix et rétablissait la paix entre les gens. Pour ça, on a dit, mais quoi, tu crois que Moshe ne le faisait pas? Quelqu'un qui aimait le juif comme Moshe avec tous les hommes qu'on a donnés, tu crois vraiment que Moshe ne rétablissait pas la paix? Donc il faut quelque chose. Alors pour répondre à cette question, on va essayer d'analyser comment Aaron faisait pour rétablir la paix. Et là, vous allez voir, dès qu'on va lire ce que Aaron faisait, tout de suite, on va comprendre qu'il y a un bug. Il y a un problème. Alors, on va lire ensemble. C'est raconté dans Avot de Rabbi Nathan. D'accord ? Dans Avot de Rabbi Nathan, c'est raconté la chose suivante. Référence numéro 4. Shnei bnei Adam, she'asu meriva ze'imze. Deux hommes se disputaient. Monsieur Reuven, Monsieur Shimon, disputaient. Ça peut arriver. Alors Aaron, ve'yashavlo etzel echad mehem. Aaron allait et il s'asseyait à côté d'une de ces personnes. De le premier. Ve'amarlo, et il lui dit, béni, mon fils, re'echa ve'echa, regarde ton ami, metaref et libo, il est très mal en point, ve'koret, ve'gada, ve'il déchire ses vêtements. Omer, il dit, oili, malheur à moi, et achesa et enai, ve'eret raveri, comment pourrais-je regarder mon ami droit dans les yeux? Boshti emenu, j'ai honte de mon ami, shani ou sarti alav, c'est à cause de moi qu'est cette querelle. Donc Aaron, il partait voir. Donc imaginez par exemple, voilà, bon, Monsieur Reuven est disputé avec Monsieur Shimon. Aaron va voir Monsieur Reuven, il dit, tu sais, Monsieur Shimon, il m'a parlé. Il m'a dit qu'il a honte de te regarder droit dans les yeux, parce qu'il se déchire même les vêtements, c'est une fine expression, parce qu'il est très très mal, il se dit, j'ai vérité, c'est à cause de moi qu'on s'est disputé.
C'est faux, là.
C'est faux, archi faux, ça n'a jamais existé.
Ah oui, c'est bon,
c'est... Attends, c'est... d'accord c'est... Ensuite, ensuite, ou Yoshev et Tzlo, Hachemessir Kinamilibo. Et donc Aaron restait comme ça. Il restait comme ça, il a parlé avec cette personne, jusqu'à que cette personne dit, bon, ben finalement, ah, bon, s'il admet qu'il a tort, ouais, bon, d'accord, d'accord, ça va, ça va. Et jusqu'à que petit à petit, il enlève, kin a milibo, qu'il enlève la jalousie. Qu'il n'y a plus de jalousie. Parce que finalement, il y a un problème de jalousie, il y a la guerre. Mais dès que tu vas voir quelqu'un, tu sais, j'ai parlé à l'autre, et il m'a dit qu'il est d'accord, qu'en vérité, c'est toi qui as raison. Petit à petit, on enlève la jalousie. Maintenant, Aaron, qu'est-ce qu'il faisait? Le lendemain, ou peut-être même le jour même, à mon avis, il allait voir l'autre, et il faisait la même déballe. Tu sais, je suis parti voir ton ami. Et je l'ai rencontré comme ça. Et il m'a dit, ah, vous savez, j'ai honte de voir mon ami, parce qu'il dit, parce que c'est à cause de moi, tout ça. Enfin là, qu'est-ce qui se passait? C'est que les deux pensaient, d'accord, la même chose. C'est-à-dire, chacun des deux protagonistes, d'accord, au querelleur, enfin, les deux pensent que l'autre a admis qu'il a tort. Maintenant, qu'est-ce qui se passe?
Quand ils se rencontrent
dans la rue.
Tout va bien.
D'accord? Ils se rencontrent dans la rue. Donc, ils se regardent droit dans les yeux, et maintenant, chacun croit que l'autre croit que, d'accord?
Même chose.
Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Chenif Keshus est basé, dès qu'ils se rencontraient l'un envers l'autre, Guy Pepou, Venikesh Venishkus et Lazé, ils s'enlaçaient et ils s'embrassaient l'un à l'autre. Et après, c'est reparti. Alors évidemment que, bien sûr, certainement que quelques minutes plus tard, ils découvraient, ou quelques heures plus tard, ou quelques jours plus tard, bah, ils découvraient que c'était qu'ils se sont fait avoir, mais c'est pas grave. En tout cas, ils ont déjà repris, bon, une fois qu'ils ont repris, ils sont repartis, ils sont déjà réconciliés. Alors, est-ce que c'est légal ce que fait Aaron? Il ment, c'est un mensonge. C'est un mensonge.
Pour le shalom,
la tradition, c'est légal.
Pour le shalom, c'est un acte d'amour.
Ah, bah oui, c'est un acte d'amour, mais c'est un mensonge absolu.
Ah non, mais d'accord.
C'est un mensonge de but en blanc. Bah, ça veut dire qu'il lui balance un truc qui n'a jamais existé.
Il a la bonne intention, mais.
D'accord oui. Alors, est-ce que pour rétablir le shalom, on a le droit de mentir?
Bah, dans notre tradition,
oui. Enfin, dans un couple, oui.
Est-ce qu'on a le droit?
Bien sûr.
C'est... Attendez, c'est pas si simple. Je parle de mentir.
Le bien d'un couple, oui.
C'est pas si simple.
Le jour où on s'en rend compte.
Ouais, mais comme on a dit, après, une fois qu'ils sont parlés,
c'est pas si simple. Ta femme, tu dis où t'étais, qu'est-ce que t'as fait?
Non, mais c'est de rétablir le contact, c'est le plus important.
Oui, d'accord, mais la fin dans la Torah ne justifie pas les moyens.
Et puis qu'ils font la guerre.
Ça, c'est pas chez nous.
Et puis qu'on fait la guerre.
Non, non, attendez.
On va serrer la main entre
nous. Non, la guerre, c'est la guerre.
Oui, mais pour donner les pires ennemis,
on peut pas mentir. Oui, mais j'ai compris, on peut pas mentir.
C'est
un compromis,
c'est-à-dire.
Ah non, là, c'est pas un compromis. Non, mais là, c'est pas un compromis, là. Là, c'est un mensonge. Il ment. C'est-à-dire qu'il va avoir les deux. Et il raconte un mensonge. C'est faux. C'est un épisode qui s'est jamais passé. Jamais il y a une personne qui est venue le voir. Alors effectivement...
Comment ça se passait la deuxième fois qu'il se fâchait? Parce qu'après, vous savez...
Ah, t'inquiète pas, il trouve un autre baratin. D'accord? C'est un exemple. Alors, au passage, d'accord, la Halakha nous dit la chose suivante. C'est la Halakha qui nous dit que Aaron avait le droit de faire ça. Pourquoi? Parce que c'est en fait la Gemara qui nous dit juste en dessous. Mutarlo la Adam Leshanot bidvar hashalom. Un homme a le droit de changer, de modifier la vérité pour établir la paix. Alors attention, je voudrais quand même préciser que quand on dit modifier, on ne peut pas mentir de façon absolue. Ça veut dire deux secondes. Ça veut dire que je ne peux pas dire quelque chose qui est archi faux. Je peux dire quelque chose que la personne n'a pas dit, mais que je sais qu'au fond de lui, il aimerait rétablir la paix. Et c'est en fait sur ça que jouait Aaron. Aaron dit, c'est vrai que l'autre ne m'a pas dit, mais je sais qu'au fond de lui, il a une âme, et que cette âme, elle aimerait se rétablir la paix. C'est vrai, quand tu as deux personnes qui sont disputées, au fond d'eux, ils aimeraient tous se rétablir. D'accord ? Donc Aaron, dans ce qu'il disait, en vérité, c'était un mensonge, mais quelque part, c'est un mensonge c'est un mensonge qui racontait une vérité.
Sans trop en rajouter.
Un peu... Voilà, je le défends comme ça. C'est un mensonge, d'accord, qui laissait transparaître une vérité. Et pour le shalom... Ah non, M. Binetta, il est d'accord à 100%. Là. Alors,
pardon.
Vous êtes avec moi. C'est un menteur, Aaron.
Qui ?
Aaron, un menteur ou pas ? Alors ?
Ça dépend à quel moment.
Alors, le problème, c'est quoi ? Rabotaille, le problème, c'est quoi ? Le problème est très simple, deux secondes. Le problème, c'est que même si halakhiquement c'est autorisé, bien que c'est fortement déconseillé par le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch dit qu'il ne faut pas s'amuser avec ça. Il dit qu'il faut utiliser cette technique le moins possible. La technique du mensonge pour la bonne cause. Parce qu'après on s'habitue à mentir, et quand on s'habitue à mentir, on s'habitue à baratiner, et quand on s'habitue à baratiner, c'est pas bon. Après on raconte n'importe quoi. C'est-à-dire ça c'est une arme à utiliser dans des cas extrêmes, d'accord ? Quand vraiment on n'a pas le choix, ta femme a dit où t'étais, etc. Tu sais que si tu veux lui dire une phrase, j'étais chez un tel et que tu sais que tu sais que ça va sauter, bon. On te dit, tu le racontes à un baratin. Enfin, pas un baratin. Tu veux pas lui dire quelque chose qui est complètement faux. Tu veux lui dire, je suis parti faire une course. Ce qui n'est pas faux, t'es parti faire une course aussi. D'accord? Après, tu l'as pas tout dit. Bon, t'as pas tout dit. Elle aussi, elle te dit pas tout.
Partir faire une course, c'est ça?
Alors, non, mais c'est vrai. C'est par exemple.
C'est pour la bonne cause, il va ranger la chose.
Non, mais c'est par exemple, elle va te dire, par exemple, t'es parti voir quelqu'un et t'es parti à Franprix. Elle va dire où t'étais? J'étais chez Franprix. Et j'ai vu un ami, c'est pas faux.
Mais pourquoi quand on reconnaît les mensonges, on doit cacher la vérité à certaines personnes pour ne pas qu'ils répètent.
Non, attention, on peut mentir par omission, mais là c'est plus là.
C'est de la manipulation.
Là, c'est, oui, exactement. Parce que
non, mais ne pas divulguer à quelqu'un de proche ce que tu vas faire.
Il y a un mensonge par omission. Mais là, c'est pas une omission là. Là, c'est un mensonge clair. Mais c'est un mensonge qui reflète une vérité.
C'est de la manipulation.
Oui, mais non, c'est une manipulation, c'est la raison. Mais c'est un mensonge, ça veut dire le fait qu'il dit « J'ai vu ton ami, il m'a dit qu'il veut te voir, etc. » C'est un mensonge. Mais c'est un mensonge qui reflète une vérité. Parce qu'Aaron, il voit la neshama de l'autre, que l'autre, il veut revenir. Non, le problème, c'est quoi ? Le problème, c'est quoi ?
Il n'y a pas de politique.
Le problème, Rabotai, c'est que ça, même si c'est autorisé par la loi, Moshe Rabbeinu est incapable de faire ça. Pourquoi ? Parce que, nous dit le Midrash, et c'est la fin de la page, il est écrit, lorsque Dieu a dit à Moshe Rabbeinu, il était dans le désert, et il lui a dit, va à la rencontre de ton frère, va en Égypte, et tu vas voir ton frère viendra à ta rencontre. C'est dans la parasha Shemot. Et on nous raconte qu'ils se sont rencontrés à un point donné. C'était le signe que Dieu a dit à Moshe. Il lui a dit, tu verras, le signe, c'est que tu vas être en route, et Aaron, ton frère, ira à ta rencontre. Donc il y a une rencontre qui se passe quelque part dans le désert, entre Moshe et Aaron. Et comment décrit le roi David dans le Tehilim cette rencontre entre Moshe et Aaron ? Écoutez bien. Chesed ve'emet nivgashu. La bonté et la vérité se sont rencontrés. Chesed ze Aaron. La bonté c'est Aaron. Ve'emet ze Moshe. Et la vérité c'est Moshe. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, bien sûr que les deux étaient des grands tzadikim. Mais chaque tzadik, il a sa qualité spécifique dans laquelle il excelle et dans laquelle il se définit. La qualité principale dans laquelle se définit Aaron, c'est Chesed, c'est la bonté. Donc tout ce qui est dans la bonté, on prend. Même s'il faut parfois arrondir des angles, tant que la Torah l'autorise, je le prends. Si la Torah m'autorise de mentir pour le faire, pour faire le challenge, je le fais. Alors que Moshe Rabbeinu, sa mida, c'est quoi ? Son trait de caractère, c'est quoi ? Moshe Rabbeinu, c'est le Emet. Et vous savez, quelqu'un qui est Emet, quelqu'un qui est authentique, il ne peut pas supporter même, ne serait-ce qu'un seul instant, faire une entorse à la vérité. Il ne peut pas. C'est-à-dire que Moshe, dès qu'il voyait un monsieur et une madame qui se disputent, ils arrivent, ils débarquent les deux, bureau, Moshe Rabbeinu, Rabbi Moshe. Bon, il leur parle. Et Moshe, il sait qu'il suffit des fois d'un petit baratin. Ça veut dire de prendre un à l'écart, l'autre à l'écart, dire ouais, je lui parle à lui, il m'a dit ci, il m'a dit ça. Hop, et l'affaire est réglée en un quart de tour. Moshe, il est incapable de faire ça. Il ne peut pas. Pourquoi il est incapable ? Parce que lui, sa mida principale, son trait de caractère principal, c'est le Emet. Et c'est pas par hasard qu'il est comme ça. Dieu a créé Moshe comme ça, Moshe a besoin de ça, parce que Moshe Rabbeinu, c'est lui qui va nous transmettre la Torah. Et la Torah est une Torah émette, une Torah de vérité. Donc c'est pour ça que Moshe Rabbeinu est comme ça, c'est sa personne. Donc Moshe Rabbeinu, même si il voulait rétablir la paix entre les gens, dans les faits, ses taux de réussite étaient plus limités qu'Aaron. C'est pas qu'il voulait pas, ça c'est la réponse du Rabbi. C'est pas qu'il ne voulait pas. Évidemment qu'il voulait. Mais il n'était pas capable de baratiner, de carotter comme Aaron. Il était incapable de faire ça. Incapable. Alors que Aaron, il savait exactement quels étaient ses leviers. Tout ce qui était autorisé par la halakha, il savait. C'est-à-dire qu'il n'avait aucun problème à Aaron à regarder le mari droit dans les yeux et lui dire « J'ai parlé avec votre femme, elle m'a dit ça. » Et de parler avec la femme et de lui dire droit dans les yeux « J'ai parlé avec votre mari, il m'a dit ça. »
Jamais il se réconcilie.
Sans aucun problème. Non mais Aaron, sans aucun problème. Il a aucun scrupule. Mais pourquoi il a aucun scrupule? Parce qu'il sait que c'est autorisé par la halakha. Et qui sait que ça va rétablir le shalom. Il a des preuves sur le terrain. Il voit que ça rétablit le shalom. Ça, Moshe est incapable de faire.
Oui, sauf que la réussite de la transmission de la Torah, elle passe par Moshe au sens où, justement, quand vous dites, au début, c'est là où c'est... Enfin, sur les 4 ou 5 exemples sur...
c'est la vérité.
Le seul, moi, que je trouvais qui ne correspondait pas forcément avec l'amour d'Israël dans mes exemples, c'est le fait qu'il veut transmettre... À chaque fois, il transmet. Parce qu'on peut l'interpréter justement comme il est de la vérité. Il veut être sûr.
Oui, mais
il veut être sûr que sa transmission.
C'est un gros boulot qu'on l'a pas demandé.
Oui, mais comme il est tellement épris de vérité.
Peut-être il y a ça aussi.
Il veut pas qu'il y ait être sûr que le message ne soit pas altéré.
Pourquoi pas? On peut dire ça aussi. Pourquoi pas?
Les autres, oui, sur la.
Oui, bien sûr.
Mais sur le fait que. Il veuille transmettre lui-même, c'est pour s'assurer que justement c'est fait dans la vérité.
Pourquoi pas? Bon, on peut dire ça parfaitement sans aucun problème. En tout cas, ce qui est clair, c'est quoi? C'est que Moshe Rabbeinu, d'accord? Ça veut dire, il faut être bien clair. Est-ce que la Torah autorise ce genre de mensonge? Oui ou non? Est-ce que la Torah de vérité, est-ce que la Torah autorise ce genre de mensonge?
Non.
Oui, mon capitaine.
Oui, c'est
la Torah autorise.
C'est la Gemara.
La Torah l'a dit. Seulement quoi, même si la Torah l'autorise, d'accord, mais Moshe Rabbeinu, que son trait de caractère principal, c'est l'attribut de la vérité, c'est ce qui le caractérise, il est incapable de le faire. Avec la meilleure volonté au monde, Moshe Rabbeinu est incapable de le faire. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, je vous explique, c'est très simple. Dans la majorité des cas, pour établir la paix entre deux personnes, t'as pas besoin de faire une entorse à la vérité. Tu les prends, tu les assois. Et on essaye de dire à chacun, écoute, toi tu mets de l'eau dans ton vin, toi tu mets de l'eau dans ton vin, et ensemble ça va marcher. Mais il y a des fois des gens qui sont tellement accrochés que la seule façon de rétablir la paix entre eux, c'est de mentir. Mais ça veut dire qu'ils sont partis très très loin dans la marloquette. Parce que normalement, quand c'est une dispute entre un mari et une femme, etc., bon, quand c'est une dispute qui n'est pas allée trop loin, t'as pas besoin de mentir. Pourquoi tu veux mentir? Je dis, bon, écoute, c'est vrai qu'elle a fait une bêtise ta femme, c'est vrai qu'elle a fait une bêtise, mais écoute, tu sais, bon, essaye de bien la juger, elle voulait pas vraiment te faire du mal, etc. On peut toujours trouver sur quoi c'est une nuance. Ça, c'est la méthode classique. Même Moshe, il peut faire ça. Ça peut parler à quelqu'un, on peut lui dire, écoute, tu sais, ce que tu vois n'est pas si grave que ce que tu crois, etc. Tu parles, il y a le dialogue. Mais baratiner, raconter quelque chose qui n'a jamais eu lieu, lui dire que je lui ai parlé, il m'a dit ça, etc. Ça, c'est dans un cas dans lequel ils sont tellement disputés que ça fait 2 mois qu'ils se parlent pas. Et que tu peux même pas leur parler. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de dialogue. Quand il y a un dialogue, tu peux parler encore. Tu dis bon, mais il y a un dialogue, on peut discuter. Mais là, les cas que Aaron gérait, c'était des cas dans lesquels il n'y a même plus de dialogue. Ça, ils se parlent même plus. C'est-à-dire qu'il faut créer une occasion pour qu'ils se rencontrent. Et ça, Aaron, comment il faisait cette occasion? Avec justement le baratin qui racontait. Et ça, il faut bien comprendre que des gens comme ça, Moshe est incapable de gérer. Ça, il peut pas.
On reprend la justice de David, c'est pareil. Quand il y avait l'enfant qui devait être.
Salomon.
Oui. Pour l'enfant. Il dit, pour rétablir la justice.
Non, mais là, il n'a pas menti.
On va faire comme ça, on va prendre l'enfant.
Non, mais là, il n'a pas menti.
C'est un jugement, mais
non, mais c'était. Oui, mais c'était hypothétique.
Jusqu'où il a été.
Non, mais dans l'absolu, il a raison.
À un moment donné, il faut en rajouter.
Non, parce que vous savez que dans l'absolu, il a raison dans la lacha. Pas pour un enfant, évidemment. Mais dans l'absolu, il a raison que quand il y a un litige entre deux personnes et qu'on est incapable de savoir qui a raison, il faut couper la poire en deux.
Donc on peut en rajouter.
D'accord? Comme le talit, exactement. Comme la raison. Mais là, le problème, c'est que Moshe n'a pas menti. Même le roi Salomon n'a pas menti. Alors que là, on voit clairement que Aaron a menti. Donc ça veut dire que nous avons ici deux sortes de qualités de personnes. Nous avons la qualité d'Aaron et la qualité de Moshe. Et chacun a une qualité que l'autre n'a pas. La qualité que Moshe a, c'est que Moshe Rabbeinu, il ne fait aucune entorse à la vérité, c'est un homme vrai. C'est-à-dire tu sais que lui, c'est un homme vrai à 100%, jusqu'aux dents. D'accord? Et d'un autre côté, la qualité que va avoir Aaron, c'est qu'Aaron, c'est un homme qui est bon et que c'est sa qualité principale. Alors vous allez me dire lequel est le plus important. Qu'est-ce qui est le plus important dans la vie? Est-ce que c'est plus important d'être bon, quitte même à faire des entorses à la vérité, ou c'est plus important d'être vrai, d'accord? Et dans ce cas-là, quitte même à se faire des ennemis à cause de ça. On peut pas avoir les deux en même temps, c'est pas possible. Pourquoi? Puisqu'il y a forcément des situations dans la vie dans lesquelles l'un va à l'encontre de l'autre. Voilà, comme ici. C'est-à-dire, vous croyez que Moshe, il a pas vu la situation? Il a pas vu que ce mari et sa femme qui sont devant lui, il suffit d'un mot. Il suffit qu'il lui dise oui, il t'aime, elle t'aime, etc. Bah, c'est fini, ils sont repartis. Il suffit d'un mot. Mais Moshe, il peut pas dire ça. C'est parce que Moshe, c'est la vérité. Alors, Caron, il dit bon, au fond de lui, il aime, alors dis-lui qu'il aime, c'est bon, on est reparti. C'est-à-dire que là, on a des exemples dans lesquels celui qui agit par la vérité et celui qui agit par la bonté, ils n'agissent pas de la même façon. Donc, il y a des cas dans lesquels on n'agit pas de la même façon. Un, il le fera, l'autre, il ne le fera pas. Alors, comment on fait? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le Ham Israël a besoin des deux qualités. Il a besoin des dirigeants qui sont Chesed et il a besoin des dirigeants qui sont Emet. Il a besoin des dirigeants qui sont bons, c'est-à-dire que pour la bonté, ils sont prêts à aller jusqu'au fond, d'accord? Ils sont prêts à être là même s'il faut à mentir et à se mouiller et à jouer borderline. Parce que pour le bien du Ham Israël, et d'un autre côté, il nous faut des chefs, des dirigeants qui sont Emet. C'est-à-dire qu'ils ne vont jamais accepter aucune entorse à la vérité. Maintenant, la question, c'est est-ce que la même personne peut marier les deux? Pour répondre à la question de Michael. A priori, non. A priori, non. Mais vous allez voir que quelque part, il y a des possibilités. Mais ça, j'y arrive plus tard. D'abord, il y avait des questions. Joseph.
Aaron.
Oui.
La manière qu'il pratique, c'est qu'il redonne le droit de parole à chacun. Ça veut dire qu'il y a un malentendu entre les deux.
Attends, je vais le dire autrement. Oui, mais il a menti.
D'accord, ok.
La fin est bonne, mais les moyens.
Il redonne là. En mentant, il dit à chacun, sous une autre forme, il leur dit, vous avez le droit de dire à l'autre ce que tu penses.
Non, mais c'est pas ce qui est écrit. Aaron est parti. Joseph, Aaron, il vous a dépassé de loin.
D'accord, mais on a besoin des gens qui nous dépassent.
Non, mais évidemment, vous êtes Joseph. Mais Aaron, il est parti beaucoup plus loin que ça.
Oui.
C'est-à-dire qu'il est parti inventer une histoire qui n'a jamais existé.
D'accord.
Il a inventé une nouvelle histoire qui n'a jamais existé. C'est très, c'est fort quand même.
Bah, naturellement que c'est
fort. Dire à quelqu'un, écoute, va parler avec lui, je suis sûr que vous allez trouver un terrain d'entente. Ça, Moshe, il sait faire. Mais là, on parle de deux gens qui sont gravement accrochés.
Aaron, pour eux,
c'est terminé. Je veux plus le voir, je le connais plus.
Il
parle même plus. Vous savez, dans un couple, c'est comme dans un couple. Tant qu'on parle, même si les tons montent, au moins on parle. Le pire, c'est quand? C'est quand on parle plus. Quand on parle plus, c'est qu'on estime qu'il n'y a plus rien à dire. Ça, c'est une catastrophe, ça. Alors, qu'est-ce qu'il fait Aaron? Aaron, c'est des cas comme ça qu'il gère. C'est des cas critiques comme ça qu'il gère.
Oui, mais tu, dans ce que tu as développé, comme si finalement le Emet et le Chesed ne pouvaient pas cohabiter.
En général, ils peuvent cohabiter.
Abraham, il avait le Chesed, il avait le Emet. Il n'y avait pas de.
Eh ben, justement, Abraham, il avait le Chesed, il n'avait pas le Emet.
Il n'avait pas le Emet.
Ben, ça veut dire comme ça. Bien sûr que chaque tzaddik, il essaie d'avoir les deux, le Chesed et le Emet.
Ouais.
Mais quand à un moment il y a un conflit entre les deux, eh ben il choisit le Chesed, tant que la halakha lui autorise. Attention, tant que la halakha lui autorise.
D'accord.
On est d'accord?
Oui, donc il y a un curseur.
Exactement comme le cas d'ici. Ça veut dire que normalement la Torah t'interdit de mentir, mais la Torah te donne une marge. Elle t'autorise cette marge. Elle te dit pas de le faire, c'est pas une mitzvah. Elle te dit pas c'est une mitzvah de mentir. Parce que c'est une mitzvah de mentir, tu mens. Elle te dit, écoute, il y a une marge. Voilà. Bon, si tu fais ça, on fermera les yeux. Il y a une marge. Moshe ne peut pas prendre cette marge, il n'arrive pas. Aaron la prend. Donc voilà, là on a un exemple concret. Une différence concrète entre le comportement de Moshe et le comportement d'Aaron. Et c'est pas qu'ils sont marloquettes, c'est que leur nature et leur caractère.
Leur
il faut bien comprendre que Dieu crée à chaque personne un caractère inhérent.
C'est ça.
Un caractère qui est inhérent à sa mission qu'il aura.
Ils ont pas des rogers.
Étant donné que la mission principale d'Aaron sera de rétablir le shalom, c'est pour ça que Dieu il a créé depuis son enfance. Aaron, il est là, c'est le chesed.
Voilà.
Alors que Moshe, depuis qu'il était gamin, c'est le Emet. On connaît toute l'histoire. C'est quoi l'histoire? Lorsque Moshe Rabbeinu, il était petit, d'accord? Alors, il était chez Paro, d'accord? Et lorsqu'il était chez Paro, il y a eu un conseiller qui a dit, mais tu sais, finalement, on est en train de dire que le sauveur des juifs, mais peut-être c'est celui-là, le sauveur des juifs. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Paro, il a dit, mais non, c'est un imbécile, celui-là. Bon, on va tester. Tout petit, Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont posé devant Moshe Rabbeinu une pierre précieuse, enfin, de l'or, des pierres précieuses, d'accord? Et à côté, des braises. Et on va voir où il va mettre la main. Vous savez, un enfant, il aime bien, tout, même s'il est pierre précieux, etc., mais ça n'intéresse pas le charbon. C'est là, c'était, apparemment, il y avait des, en plus, on dit qu'il y avait des bonbons à côté, etc., et que c'était chaud. Mais pour accéder, il fallait, au bonbon, il fallait passer par le charbon. Donc, un enfant normal, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il n'est pas conscient du danger du charbon. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il envoie la main et il prend les bonbons. C'est tout. Qu'est-ce qu'a fait Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, il a envoyé la main directement dans les pierres précieuses. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un ange qui est venu, qui a bien compris que si Moshe allait faire ça, on allait comprendre qu'il est très intelligent, et qu'il est vrai surtout, que c'est pas un baratineur. Parce que là, faut être vrai pour ça, d'accord? Il dit voilà, moi je le pense, je le fais. Donc, qu'est-ce qu'a fait l'ange? Il y a un ange qui l'a poussé la main, d'accord? Qui a mis la main dans les braises et qui l'a fait rentrer dans la bouche, et c'est depuis ce moment-là que Moshe était bègue. Parce que sa langue a brûlé. Ça, c'est la raison du pshat, au sens littéral, pourquoi Moshe était bègue. Ça raconte dans la Torah, ça. D'accord? Ce que je veux dire par là, en tout cas, revenons à notre sujet. C'est que Moshe et Aaron ont deux personnalités différentes.
Ils sont pas des rochers, alors.
C'est pas du tout la même personne. Moshe Rabbeinu, sa mission, c'est le Emet, alors que Aaron, sa mission, c'est le Chesed. Alors, en vérité, parce que je vais avancer un petit peu, je vais expliquer à l'oral, on n'aura pas besoin de tout faire dans le texte. Moshe Rabbeinu, tant qu'il était de son vivant, il avait une façon de voir les choses. C'était le Emet, la vérité. Mais lorsque Moshe Rabbeinu arrive à la fin de sa vie, et que c'est lui qui écrit ça, lorsque Moshe Rabbeinu arrive à la fin de sa vie, vous savez, lorsqu'une personne arrive à la fin de sa vie, c'est là qu'il fait un bilan de sa vie. Et que Moshe Rabbeinu, il fait un bilan, il dit voilà, bon, je fais un bilan de 120 ans d'histoire, comment j'ai géré ma vie? Comment j'ai géré la communauté d'Israël? Comment Aaron les a gérés? Est-ce que j'ai bien géré? Est-ce que j'aurais pas pu modifier des choses? Et bien là, nous dit le Rabbi, Moshe Rabbeinu, dès qu'il est arrivé à ce moment dans lequel il était à la fin de sa vie, c'est un moment de vérité, Moshe Rabbeinu, il a eu la grandeur d'admettre la qualité d'Aaron et de dire, c'est vrai que j'étais pas comme ça, parce que bon, j'étais pas comme ça, c'est pas ma nature, mais j'admets qu'Aaron, mon frère, avait une qualité exceptionnelle que je n'avais pas. Et j'admets. Ça veut dire que il a jamais pris le temps de s'arrêter pour penser à ça, parce que bon, il était comme il était. Mais dès qu'il a fait un bilan avant de partir de ce monde, et qu'il a pris le temps pour faire ce bilan, parce que comme le Rabbi raconte une histoire dans la Gemara, de Rabban Yochanan ben Zakkai, qui était avant la fin de sa vie, lui aussi d'ailleurs, il avait 120 ans, comme Moshe Rabbeinu. Et Rabban Yochanan ben Zakkai, qui rassemble ses élèves, il leur dit, je ne sais pas dans quel chemin on va m'amener en haut. Alors bon, il dit, en haut devant moi, je vois deux chemins, le Gan Eden, le Gehinnom, je ne sais pas dans quel chemin on va aller. Bon, évidemment, tu te dis, mais attends, si le grand Rabban Yochanan ben Zakkai, il ne sait pas où il va aller, mais nous, on sait où on va aller. Alors en fait, il ne dit pas du tout. Il dit que Rabban Yochanan ben Zakkai, il était tellement préoccupé par sa mission, qu'il n'a jamais pris le temps de penser où je vais arriver en haut. Il n'a pas pris le temps de penser à ça. C'est seulement quand on arrive à la fin de sa vie, il y a des pensées qu'on pense qu'à la fin de la vie. Baruch Hashem, je ne suis pas dans cette situation, et Baruch Hashem, vous n'êtes pas dans cette situation, donc vous ne pensez pas à ça. Mais les gens qui passent à la fin de leur vie, et d'ailleurs on le voit clairement que les gens qui sont en fin de vie, on les voit qui sont très pensifs. Très très pensifs. Et toute personne qui a accompagné un parent, etc., qui était en fin de vie comme ça, c'est doit savoir très clairement de quoi je parle. On croit qu'ils rêvent comme ça. Ils ne rêvent pas du tout. C'est la Gemara qui dit. Ils ne rêvent pas du tout. Ils sont à un moment dans lequel ils sont dans un moment d'introspection. Ça veut dire qu'ils analysent tout ce qu'ils ont fait dans leur vie. Moshe est passé par ça aussi. Moshe, il a fait ça le jour de sa mort. C'est-à-dire qu'il n'avait même pas de faire le luxe de faire comme les autres le font en général un mois avant la mort. En général, on dit que c'est un mois avant la mort. D'accord? Lui, Moshe, il n'avait même pas le luxe de le faire un mois avant sa mort. Il a eu ce luxe de le faire seulement le jour de sa mort. Le jour de sa mort, il s'est arrêté quelques instants pour revoir sa vie. Et là, quand il a revu sa vie, tu dis finalement, mon frère Aaron avait une qualité que je n'avais pas. C'est quoi cette qualité que mon frère Aaron avait? C'est qu'il avait le chesed. Alors, est-ce que ça veut dire que Moshe s'est remis en question et qu'il aurait dit j'aurais dû faire? Je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que il n'y a pas de regret à avoir. Parce que c'est le caractère avec lequel Dieu l'a créé, le caractère du Emet. D'accord? Donc il n'y a pas forcément de regret à avoir. C'est le caractère avec lequel Hachem l'a créé. Mais néanmoins, Moshe Rabbeinu a admis qu'il avait.
Quoi qu'il arrive, c'est pas aussi. Il n'aurait pas pu bénir manière après. Même Cohen, si jamais il était que Emet, à ce moment-là, même pour bénir les autres, c'est compliqué.
Oui, exactement.
Parce qu'il y a un moment où tu dis, non, je ne peux pas bénir ces personnes.
Ah oui, Aaron, il bénit tout le monde. Voilà. Vous savez qu'on dit qu'un Cohen, pour bénir, il est obligé de faire abstraction de la haine qu'il a envers quelqu'un pour bénir.
C'est ça.
Tu imagines, certains ennemis, tu le bénis et tu fais abstraction de la haine.
C'est ça. Ah oui,
vous imaginez le chesed qu'il faut pour ça, la bonté qu'il faut?
Ça,
Moshe, il est incapable.
Oui.
Il peut pas.
Oui.
Moshe, il a pas de haine envers personne. Je veux dire, dans l'idée, le fait d'être capable de mettre de côté et de se mentir quelque part.
C'est vrai, ça, monsieur Cohen?
Ah oui, il est d'accord.
C'est vrai, vous confirmez
ou? Quelle force! Quelle grandeur! D'accord?
Moshe l'a mené à bien sa mission.
Oui, évidemment. Il a mené à bien sa mission. Cependant, lorsque Moshe arrive à la fin de sa vie, d'accord, et qu'il va monter au Har Nevo, vous savez que le Har Nevo, le mont Nevo, ça veut dire Nunbo, 50 en lui. On dit qu'il y a 50 portes. Et que l'homme peut attendre que 49 portes. La 50e porte, c'est Dieu qui l'amène. Et là, Moshe, il comprend que la 50e porte, c'est le Chesed, c'est la bonté. Mais il comprend comment. Il avait une façon de faire les choses dans sa vie, mais que Aaron a une qualité que lui n'avait pas. Alors, l'enseignement qu'on doit tirer de tout ça est très clair. D'accord. On n'a pas pu tout faire à la page, hein, mais vous verrez ce que vous voulez après. Vous prenez la feuille avec plaisir. Mais j'essaie surtout de m'arrêter sur cette différence entre Moshe et Aaron. L'enseignement qu'on peut tirer de tout ça est très clair. C'est qu'on voit clairement ici que Moshe Rabbeinu, dans les mêmes versets dans lesquels sa mort est racontée, dans ces mêmes versets, la Torah nous raconte comment Moshe Rabbeinu, il était tout autant épris de vérité qu'il était. Moshe Rabbeinu a admis la qualité de Aaron pour nous montrer la chose suivante. Pour nous montrer que nous, l'enseignement qu'on doit tirer, c'est que Moshe, il te dit la chose suivante. Voilà ce que Moshe Rabbeinu veut te dire. Il te dit, parfois dans la vie, tu seras amené comme moi à être amené dans des situations dans lesquelles tu as un conflit. Tu as un conflit intérieur, vous voyez, entre d'un côté la vérité et d'un côté la bonté. Par exemple, on te demande d'aller t'occuper d'un juif qui est très loin et qui est peut-être loin volontairement parce qu'il s'est laissé aller. Et la vérité, c'est que si tu écoutes la vérité parler, tu lui dis, écoute, la vérité, il s'est laissé aller le bonhomme, ben, il faut le laisser se reprendre. C'est vrai, il y a des situations dans la vie dans lesquelles tu fais écouter la vérité, tu dis, non, la bonté, elle n'est pas à sa place. Et d'un autre côté, tu as une autre voix qui se fait entendre à l'intérieur de toi, qui te dit, non, mais quand même, il faut être bon. Et ça, ce que je vous dis, c'est très fréquent. C'est très fréquent dans beaucoup de cas dans la vie. Ça peut être soit envers les autres et même envers soi-même. Vous savez, des fois, par exemple, une personne est accrochée avec une autre personne. Monsieur est accroché avec madame. Ou monsieur Rouven est accroché avec monsieur Shimon. Ils sont disputés. D'accord? Et très souvent, quand on est disputé, je pense que chacun, il a un point de vue. Et que chacun maintient que son point de vue est vrai. Chacun maintient qu'il a raison. On est d'accord? On n'est pas là pour disputer. Le but n'est pas de disputer. Le but est que chacun pense qu'il détient la vérité. On est d'accord? Cependant, à un moment, on te dit, bon, d'accord, tu détiens la vérité. Mais est-ce que tu es bien conscient que si tu veux aller plus loin, si tu veux rejoindre les deux bouts, tu es obligé de mettre de côté cette fameuse vérité que tu dis pour essayer d'utiliser ton chesed pour aller vers l'autre. Ça, c'est très difficile. Il y a des gens qui ont beaucoup, beaucoup de mal avec ça. Surtout les gens vrais. Les gens qui sont vrais, qui ne supportent pas aucune entorse à la vérité, ils disent non, je ne me laisserai pas faire. Pas parce que je suis fier. Parce que je ne veux pas mentir. Je ne veux pas lui dire qu'il n'y a rien alors qu'il y a quelque chose. Je ne suis pas d'accord. Et là, voilà, te dit le rabbi l'enseignement. Il te dit l'enseignement est très simple. L'enseignement est très simple, c'est que on voit d'ici qu'on a eu deux comportements. On a eu le comportement de Moshe, le comportement d'Aaron. Le comportement qui suit la vérité et le comportement qui suit le chesed, la bonté. Et que Moshe lui-même, il a admis à la fin de sa vie que si dans des situations on doit choisir entre les deux, lequel on doit choisir ? On doit choisir la bonté. Et ça, je vous dis, alors c'est pas qu'il a regretté ce qu'il a fait dans sa vie. C'est une leçon de vie qu'il nous donne, à nous autres qui étudions la Torah. Et ça, je vais vous dire, on l'a vu très clairement dans le comportement du rabbi. Pour terminer avec ça. Dans le comportement du rabbi, vous savez, le rabbi est un homme très vrai. Quand on étudie les commentaires du rabbi, on voit que c'est quelqu'un de très carré. Très très carré. C'est-à-dire, dans ses commentaires, il n'y a rien, il n'y a pas d'approximation. Quelqu'un de carré, c'est quelqu'un de carré. Tu ne peux pas commencer à l'entrelouper, le raconter, lui dire, non, mais ici, il y avait ça. Il y avait ça. Carré. Et pourtant, combien d'histoires on voit dans lesquelles le rabbi, il a fait des pieds et des mains et des efforts monstrueux pour rétablir le shalom entre les gens. Et pour bien juger. Et pour bien juger, même dans des cas dans lesquels, vous savez, des fois, il y avait des xérotes qui tombaient du présent au peuple juif. Et on voyait le rabbi dans des fabricaines parler, il disait qu'en vérité, le peuple juif, il se comporte bien, et que tout va bien, et qu'il faut voir le bon côté des choses. Maintenant, je vous garantis que le rabbi carré comme il était, il n'est pas passé à côté de la faute qui était là. Et il a bien vu la faute qui était là. Et il faut une très très grande force de caractère pour voir le problème chez quelqu'un, et faire un effort pour repousser le côté Moshe qui est en lui, et faire ressortir le côté Aaron pour dire, bon, c'est vrai que le côté carré dit qu'il y a un problème, c'est le Emet, D'accord, c'est la vérité. Mais d'un autre côté, je vais quand même repousser ça pour faire le chesed et pour essayer de retourner ces gens, de retourner ces personnes. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle aujourd'hui on est Guimel Tammuz, le 3 Tammuz. Et bon, le rabbi n'a pas donné d'instructions pour le 3 Tammuz, évidemment, mais il a donné des instructions pour le jour du départ de son beau-père, le 10 Shvat. Et donc je pense qu'on doit appliquer les mêmes consignes. Une des consignes qu'il avait données, c'est que le jour du 10 Shvat, donc pour nous l'équivalent du 8 Tammuz, parce que le 3 Tammuz, le 10 Shvat, c'était pour la date de son beau-père, donc là, aujourd'hui, c'est la date du Rabbi lui-même. Il a dit que ce jour-là, le jour de l'Aïloula de son beau-père, donc le jour de l'Aïloula de Sadiq, c'est un jour qu'il faut dédier à Havat Israël, à l'amour du prochain. Très intéressant. Ça veut dire que de toutes les qualités qu'avait, son beau-père, et de tous les efforts qu'on doit faire, il a dit étudier la Torah, faire la tefila, et surtout que ce soit épris d'amour du prochain. C'est quand même intéressant. C'est-à-dire que de toutes les qualités, quelle qualité on a retenu ? La qualité de l'amour du prochain. Ça veut dire que le message qu'on a pour notre génération, il fut un temps, peut-être il y a un siècle, il y a deux siècles, il y a 15 siècles, il y a 20 siècles, dans lesquels on pouvait se permettre d'être vrai. D'être vrai, c'est-à-dire de dire, moi je ne subirai aucune entorse à la vérité, je sais que la vérité est là, celui qui veut, il la suit, celui qui ne veut pas, tant pis pour lui. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, on est dans une génération, on est en fin de parcours maintenant. On est exactement comme Moshe à la fin de son parcours. Aujourd'hui, on est en fin de parcours, on est juste avant Mashiach. Et pour ramener tous les juifs à la Torah, on ne peut pas se permettre d'être vrai. On est obligé, quand on a des situations comme ça, de faire des entorses à la vérité. C'est comme ça. Qu'est-ce que vous croyez ? Vous croyez que quand on voit quelqu'un qui est très loin de la Torah, et tu vois qu'il se laisse aller, etc., vous croyez que c'est facile pour un loubavitch de venir avec un sourire et de lui dire « viens mettre les tefilines » alors que tu sais que le bonhomme vient faire les 400 coups derrière ? Vous croyez que c'est facile ? Si tu laisses ta vérité parler, je viens de dire « attends, celui-là, il croit quoi, là ?» Je vais lui rentrer dedans, je vais lui faire un sourire. Moi, je lui fais un sourire en plus. Un sourire, etc. Quel sourire ? Je vais lui rentrer dedans. C'est très difficile de d'éveiller le sourire qui est dans toi pour dire « mets de côté cette vérité et fais ressortir ta bonté pour voir le bon côté qu'il y a chez lui et pour voir comment tu peux le ramener. » C'est très difficile. Parce que, encore une fois, c'est paradoxal. C'est la vérité ou la bonté. Eh bien, le rabbi nous apprend qu'aujourd'hui, quand on est dans notre génération, à choisir entre la conduite de Moshe et la conduite d'Aaron, laquelle on choisit ? La conduite d'Aaron, la conduite du Shalom, la conduite du Chesed, et s'il le faut, même arrondir les angles. Ça veut dire, tous les moyens sont bons. Tous les moyens sont bons. Moi, je me rappelle, par exemple, des fois, j'allais mettre les tefilines aux gens, d'accord ? Dans les magasins, alors, comme la bicêtre, quand j'étais jeune homme. Et je me rappelle, il y avait une boutique dans laquelle il y avait un juif ashkenaz, il ne voulait jamais mettre les tefilines. C'est-à-dire très souriant, très accueillant, très sympathique, etc., mais il ne voulait jamais mettre les tefilines. Et chaque fois, je leur racontais une autre histoire. Il faut que je sorte ici, il faut que je sorte ça, etc. Toujours, je réfléchissais quel baratin je vais leur raconter aujourd'hui. Ça ne marchait pas. Et une fois, d'accord, une fois, alors ce n'était pas la date de mon anniversaire, c'était, je crois, plusieurs semaines avant, j'ai dit, bon, tu sais quoi, je veux dire, c'est mon anniversaire. Je lui ai dit, écoutez, t'es monsieur, bon, peu importe son prénom. Je ne sais même plus s'il est de ce monde aujourd'hui. Je lui ai dit, écoutez, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Même si vous ne faites pas pour Dieu, faites-le pour moi. Faites-moi plaisir, vous voyez que ça me tient à cœur. Faites-moi. Il dit, ah, pour vous, je vais le faire. Et il les a mises. Et depuis, il a mis toutes les semaines. J'ai menti. J'ai menti. C'est la vérité, c'est un mensonge que j'ai fait.
Parce que, hein,
mais ça a marché. Ça a marché.
Voilà. C'était pas complètement faux, parce que ça vous a fait plaisir.
Oui, bien sûr, non, bien sûr que c'était proche de mon anniversaire, que ça m'a fait plaisir.
Et que le fait qu'il
vous savez, on peut tout cachériser. Mais bon, mais c'était faux. C'est pas mon anniversaire. C'était faux.
C'est un mensonge.
Là, mais voilà.
Là, on n'est pas dans la
vie. Si, bien sûr. À l'occasion, je me rappelle que j'avais fait attention en lui disant à l'occasion de mon anniversaire, etc. Bon, je me suis arrangé pour que légalement je suis pas en empreinte. Mais j'ai menti. Et ça a marché. Parce que voilà. Maintenant, si tu voulais être quelqu'un de vrai, tu veux dire, moi je suis quelqu'un de vrai, je mens pas. Oui, mais ça c'est la méthode Moshe. Moshe lui-même, à la fin de sa vie, te dit, il faut passer à la méthode d'Aaron. La méthode de la bonté. Voilà le message qu'on peut retenir pour le 3 Tammuz. Et le rabbi nous a montré très clairement par son comportement. Je sais que quand on demande aux gens, pour vous, c'est quoi Lubavitch ? Vous savez, c'est quoi le mot Lubavitch ? Ça veut dire quoi Lubavitch ? Lubavitch, d'accord, ça veut dire amour. Lubavitch, Luba, d'accord, Lubavitch, ça veut dire le village de l'amour. Luba, en russe, ça veut dire l'amour. C'est pour ça que dans le mouvement Lubavitch, il y a tellement l'amour du prochain qui est présent. Quitte même à faire une entorse à la vérité. Vous avez le Litva qui est là, qui va dire non, moi, là.
Bah, c'est Moshe, voilà. C'est le Misnagad.
Oui, mais Moshe lui-même, il arrive à la fin de sa vie et il dit, écoutez, Moshe lui-même, il arrive à la fin de sa vie et il dit, écoutez, messieurs, il faut passer au Chesed. Voilà, ce sera le mot de la fin pour Guimel Tammuz.
Merci.